des livres plein les oreilles. Bonjour à vous toutes et vous tous, Clotilde Seille au micro de Canal M pour vous présenter une nouvelle fois l'émission Des livres plein les oreilles qui, comme vous le savez, si vous êtes des fidèles, des coutumiers de cette émission-là, est consacrée exclusivement aux livres audio. Alors évidemment, à tout seigneur, tout honneur, on commence souvent par ceux que nous enregistrons ici dans nos studios chez Vues et Voix, mais il est question aussi de livres partout dans la francophonie. Alors aujourd'hui, à l'émission Distorsion ou 13 histoires étranges de l'ère numérique, ça c'est un régal de bouquin qui fait dans le loufoque, dans l'incroyable, dans l'irrésistible, dans le gore, dans le sanglant, dans tout ce que vous voulez. Ce sont 13 histoires littéralement à dormir debout, nées et surtout dénichées par les esprits joyeusement tordus de Sébastien Lévesque et Émile Gautier. Je les cite, après des mois de cogitation, de recherche dans les bas-fonds d'Internet et de visionnement de vidéos obscures, nous avons lancé un podcast indépendant où les histoires les plus inusitées et mystérieuses sont passées au peigne fin. Que ce soit des cas réels de disparition, des incursions au cœur du dark web, des crimes sordides ou encore des creepypastas, ça va falloir qu'il m'en parle un peu plus dans quelques minutes, dont ils remettent en question notre relation aux technologies. Je vais parler à ces deux farfelus du web. Et puis, le monde entier est ébranlé par la mort ignoble de George Floyd. Du coup, les livres audio sur le racisme et l'antiracisme sont nombreux et s'écoutent énormément sur le continent américain, mais aussi à l'extérieur de nos frontières. On évoquera quelques-uns de ces livres et ce sera, puisque c'est tristement d'actualité, l'occasion de réentendre Mireille Metellus, grande comédienne et narratrice pour Vues et Voix de l'essai de Robin Menard, Noir sous surveillance, qui ne cache pas que le Canada n'est pas le plus beau pays du monde dans ses relations avec la population noire. Nous évoquerons aussi la mort de Jean-Marc Chaput avec l'ami animateur de Canal M, Luc Fortin. Et on évoquera aussi le film Pinocchio et différentes versions du livre audio de Pinocchio. Une nouveauté avec la voix de Michel Jonas pour la portée. Oui, le chanteur devenu narrateur. Ça fait beaucoup de choses. Hein. Avant de rejoindre Sébastien et Émile, un petit extrait. Tiens, on se transporte dans l'Ouest. Allons-y.
Certains mystères passionnent littéralement les internautes. Ce qui est arrivé à Eliza Lam cette nuit-là au Cecil Hotel de Los Angeles défie encore aujourd'hui toute explication. « Je suis trop fatigué pour faire mes bagages », écrit Eliza Lam dans son blog Tumblr le 22 janvier 2013. La jeune femme de 21 ans qui vit à Vancouver vient de célébrer avec des amis son départ imminent pour la Californie. Elisa a passé plusieurs jours à organiser cette fête, réserver la salle, contacter les invités et planifier la logistique. Toutes ces tâches, en plus de l'organisation de son propre voyage, l'ont épuisée. Quelques jours auparavant, le 17 janvier, Elisa s'exprimait à ce propos sur son compte Twitter. Raison numéro 918 289 pour laquelle je déteste les clubs. Gérer les listes d'invités et ceux qui ne confirment pas leur présence avant la date limite signifie que je dois me démener et les supplier. Malgré tout, elle dit se sentir bien entourée par son cercle d'amis et remplie d'amour.
Ouais, remplie d'amour, la suite nous prouvera qu'elle en a fatalement manqué un petit peu. Bonjour, vous deux, Sébastien et Émile, Sébastien Lévesque et Émile Gauthier, c'est lequel des deux qu'on entendait là?
C'est moi-même, c'est Émile qu'on entendait. Bonjour,
bonjour à vous deux, bonjour Émile, bonjour Sébastien.
Bonjour.
Alors, je vous ai un petit peu présenté comme des trublions du web, mais c'est le cas quand même. J'ai dit comment... Moi, je me dis que, parce que vous êtes jeune, évidemment, je pourrais être votre grand-mère, est-ce que vous faites partie de cette génération qui est née avec une tablette dans la main? Dans les mains? Ou presque?
Pas tout
non.
à fait.
Pas tout à fait.
Pas dans notre cas. On est peut-être pas si jeune, finalement, mais on a appris assez rapidement à se servir des technologies. Donc, évidemment, avec l'arrivée des années 2000, avec les réseaux sociaux, l'arrivée des téléphones cellulaires, tout ça, je pense que moi et Seb étions des early adopters. Donc, on adoptait la technologie assez rapidement et puis on l'évangélisait comme on pouvait.
Des oui, exact. Même moi, très jeune.
Ouais.
Oui,
allez-y, Sébastien.
Oui,
pardon.
Oui, moi, même, ben non, il n'y a aucun problème. Même moi, très jeune, j'ai goûté à l'informatique, même dans les années 80, dans les débuts de l'informatique.
Ouh là là, quand c'était gros, là, quand ça prenait toute la place du bureau, là.
Et que ça coûtait très cher aussi pour peu de mémoire et peu de performance.
Oui. Ah, mais je me souviens aussi, bon, à l'époque, j'étais encore de l'autre côté, là. Comment on l'appelait, là, cette espèce de gros truc, là, on appelait ça, hein? En tout cas, j'ai
mainframe?
Oui, non, c'était un mot français, mais en tout cas, peu importe, mais c'était énorme. Et à chaque fois qu'on allait faire une recherche, genre, une des premières activités qu'on pouvait faire là-dessus, c'était aller chercher, oh waouh, le nom d'une personne et trouver son adresse et son téléphone. On n'avait plus besoin d'annuaire.
Ça devait être très long.
C'était très, très long, effectivement. Alors, dans ce bouquin, qui est une série de nouvelles dans tous les sens du terme, les histoires se suivent, mais ne se ressemblent pas. Ça commence avec une mort sordide, celle de cette jeune Elisa, dont on a entendu un extrait qu'on retrouve noyée au fond d'un puits. Ensuite, on part sur les traces d'un as du web qui se donne la mort dans sa cellule. On s'en va ensuite sur une histoire d'amitié qui tourne mal. Il y a des disparitions, il y a des meurtres. Ouh là là, comment elles vous sont parvenues aux yeux et aux oreilles, toutes ces histoires-là, Sébastien et Émile?
Ce sont des histoires qui font partie un peu du folklore numérique d'une certaine façon. La plupart d'entre elles sont bien réelles, c'est-à-dire que c'est des histoires qui sont réellement arrivées. L'histoire d'Elisa Lam, dont on a entendu un extrait au début, c'est une jeune fille qui est réellement décédée dans des circonstances mystérieuses à Los Angeles. Il y a certaines histoires dans le livre qui sont plus de nature légende urbaine, je dirais, mais légende urbaine à l'ère numérique, un peu comme ce qu'on appelle des creepypasta, par exemple.
Oui, alors qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est qu'un creepypasta?
Ben, ce sont des histoires créées par les internautes à la base, puis qui évoluent un peu comme une légende racontée autour d'un feu de camp. Hein. Mm-hmm. D'un feu de camp à l'autre, la légende va se modifier et tout ça. Les creepypasta, c'est un peu une forme de littérature folklorique numérique, mais qui en même temps floue la ligne entre la réalité et la fiction. Donc, ces histoires-là qu'on a réunies dans le livre, c'est plein d'histoires diverses. Certaines sont plus tirées du milieu criminel, d'autres mm-hmm. du milieu vraiment informatique ou du dark web, par exemple.
Oui, c'est ça, oui.
Et c'est justement, moi et Seb, lorsqu'on fouille l'Internet, on est à la recherche d'histoires comme ça qu'on peut analyser, qu'on peut décortiquer mm-hmm. et raconter à nos lecteurs et à nos auditeurs aussi.
Sébastien, est-ce que vous en avez inventé alors vous-même de ces histoires-là? Est-ce que ce serait possible?
Non,
Non,
on n'a créé aucune histoire. Enfin, on n'a jamais voulu raconter de la fiction. Pas que ça n'arrivera peut-être pas un jour, mais non, chaque histoire a un fond de vérité. Okay. Ou ce que je nuancerais peut-être un petit peu, c'est lorsqu'on parle de conspiration ou même certaines fois de phénomènes Internet, comme un certain... Il y a certains phénomènes Internet, mais pour la plupart, c'est tous des histoires vécues qui ont été répertoriées parce que la plupart de nos sources, on se sert des médias, en fait. On se sert de ce qu'on trouve sur le web comme information. Et généralement, on essaie tout de même d'aller puiser nos sources via des médias fiables. C'est sûr que lorsqu'on décortique des rumeurs ou des conspirations, là, on plonge dans d'autres secteurs de l'Internet, comme sur Reddit ou des forums de discussion, où un peu tout le monde a la parole. Mais c'est ça, c'est toujours la réalité.
Mais est-ce que vous vous sentez un peu parfois comme des inspecteurs de police vous-même? Non, parce que à un moment donné, c'est carrément écrit dans une des histoires. Je pense que c'est la deuxième ou la troisième sur l'as du dark web, là, où vous dites carrément que que vous allez faire des recherches parce que vous voulez comprendre ce qui s'est passé. C'est pour ça que je vous pose cette question là.
Oui, ben on se considère surtout comme des raconteurs, je dirais, c'est-à-dire qu'on rapporte les faits, mais dans certains cas, il y a certains endroits du web où les médias traditionnels ont moins tendance à s'aventurer. Donc là-dessus, moi et Seb, je pense que c'est là qu'on peut prendre le relais, puis se rendre un petit peu plus creux, un petit peu plus loin sur le web, dans les bas-fonds, pour tenter de trouver des informations qui parfois sont moins disponibles, font moins surface sur Google ou dans les médias traditionnels, par exemple. Donc oui, parfois, on se ressent, je dirais pas comme des enquêteurs de police, parce que notre but, c'est pas tant que ça de mener
c'est
l'enquête,
ça, ouais.
Mais on se sent un peu comme les intrépides du web, d'une certaine façon. Donc on tente de dénicher les informations et certaines hypothèses, donc on s'aventure parfois un assez creux là, sur le web.
Et dites-moi, pourquoi le mot « distorsion », pourquoi ce choix? Moi, je sais que le mot distorsion, c'est un mot que je vais employer pour du son, par exemple. Mais dans ce cas-ci.
Ben en fait, une distorsion, au départ, le mot distorsion est venu étant donné qu'on trouve qu'on a une certaine distorsion cognitive par rapport à notre rapport avec la technologie. Parce qu'on a tous un rapport un peu différent avec la technologie selon notre passé, selon notre propre utilisation, nos perceptions et tout ça. Et étant donné qu'on voulait raconter des histoires étranges, on dirait qu'en cherchant un nom, on trouvait que le mot distorsion correspondait exactement au type d'histoire qu'on voulait raconter, parce qu'il y a toujours un peu une certaine distorsion, à la limite une dystopie même dans certaines histoires là, qui vont tellement loin dans les crimes.
Et parfois, ces histoires-là voyagent beaucoup, hein, puis elles sont distorsionnées elles-mêmes. Donc, ça vient un peu de ça aussi, de la distorsion de ces histoires-là qui voyagent, qui sont modifiées selon les dires des internautes.
Et vous êtes des habitués de l'audio, parce que toutes ces histoires-là, avant d'être un livre audio, vous les avez diffusées par des podcasts que vous faites très régulièrement. Et vous en faites encore?
Oui, tout à fait.
Hein? C'est comme une émission régulière que vous avez là.
Exactement. On est en plein cours de notre sixième saison actuellement. On a 77 épisodes de réalisé jusqu'à présent. Dans le livre, par contre, il y a des histoires qui sont exclusives au livre. Donc, environ la moitié des histoires sont réservées exclusivement au, à ceux qui vont acheter le livre audio ou le livre papier. Donc, on évite un peu de redondance.
Alors, je me suis permise, Sébastien et Émile, d'aller évidemment écouter pour préparer cette émission-là quelques-unes de vos émissions sur podcast. Puis j'en ai même copié un petit bout, ça ne vous dérange pas, pour que les gens sachent ce que c'est que ce podcast Distorsion, parce que maintenant, c'est sûr, ils vont se ruer là-dessus pour aller vous écouter. Et ça va leur donner une idée du ton que vous prenez pour nous raconter ces histoires.
Ce matin-là, Curtis Green voit s'approcher de sa maison un livreur de USPS, du US Postal Service, mais il note des choses un peu étranges avec la venue de ce livreur-là. L'homme porte une veste légitime du Postal Service, mais il porte des espadrilles aux pieds, puis des jeans aussi, donc c'est un peu spécial. Aussi, Curtis remarque un camion blanc, sans aucune indication, garé en face de sa maison. Le livreur cogne à la porte, mais Curtis ne va pas répondre tout de suite parce qu'il pense qu'il y a quelque chose de louche derrière ça, donc il attend que le livreur s'éloigne un peu. C'est alors qu'il ouvre la porte, puis il voit un paquet de la taille d'une Bible au pied de la porte. On est l'hiver en Utah, donc il fait froid et ses mains deviennent rapidement gelées. Il ramasse le paquet, puis il se dirige dans sa cuisine.
Il saisit une paire de ciseaux et il coupe le haut du paquet dans un mouvement brusque. Un nuage de poussière blanche est libéré dans les airs au même instant. Ça doit être de la lessive.
Oui, exact.
Curtis vient de recevoir un paquet d'une valeur de 27 000 $ de coke par la poste. Et pas le coke qu'il buvait au début de sa matinée. avec l'étampe d'un dragon rouge. Au même moment, Curtis a entendu un bruit très très fort qui provenait de la porte. Il y avait une douzaine de membres de la DEA qui viennent de défoncer sa porte d'entrée à l'aide d'un bélier, même si sa porte était même pas barrée. Et ils le mettent tout de suite en état d'arrestation pour possession de drogue dans l'intention de le revendre.
Et c'est pas tout, mais il va falloir aller écouter Distorsion, le podcast, pour connaître la suite de l'histoire de Curtis. Donc, ça donne bien le ton, vous êtes tous les deux, et vous l'avez dit très justement un petit peu plus tôt, vous êtes vraiment des raconteurs d'histoire, avec pas mal d'humour, je dois dire. Et puis, dites-moi, il y a une chose qui est dommage avec le livre audio, c'est qu'on ne peut pas profiter des illustrations qui figure sur le livre papier.
Oui, effectivement, ces illustrations, en fait, c'est difficile à reproduire en audio, malheureusement, mais c'est pour ça que nous, on voyait aussi le bénéfice d'en faire une version papier, justement, pour illustrer toutes ces histoires. On a collaboré avec Ron, qui est un artiste français bien connu de la nouvelle génération de
comme
de
son nom l'indique.
Oui, exactement. Et puis, c'était lui aussi, en fait, un passionné d'histoires étranges, et lui écoutait Distorsion aussi religieusement, donc la collaboration était naturelle.
Quelle serait, en avez-vous une histoire préférée parmi toutes celles du livre?
Dans celle du livre?
Oui. Est-ce qu'il y en a une que vraiment, par exemple, là, quand on vous demande, mais ça raconte quoi tes trucs? La première qui vous vient à l'esprit, c'est laquelle?
Dans mon cas, moi, c'est l'histoire de Janelle Potter, qui est une femme...
Ça, c'est l'amitié, disons, ça, c'est l'affaire d'amitié.
Oui,
ça, non,
exactement, hein? Qu'elle recherchait l'amitié.
Ouais.
Elle a eu, comment dire, est-ce que vous l'avez écouté, cette histoire?
Ou... Je l'ai lu, c'est ça, sur PDF. Oui, elle fait. Il y en a que j'ai lu en diagonale parce que je manque un peu de temps, mais celle-ci m'a semblé. Oh, je l'ai pris aussi dans le ventre, hein?
Oui, c'est assez particulier, sans divulgâcher gâcher le tout. Janelle Potter, c'était une femme adulte, mais qui avait, disons, qui restait à un niveau plutôt enfant dans sa tête. Ouais. Et c'est pas quelqu'un qui avait beaucoup d'amis. Elle s'est mise, à fréquenter des drôles de personnes, mais en même temps, des gens qui ont un peu rien fait. Puis elle est devenue hyper jalouse de tout ça. Et ça l'a viré en drame, en drame familial assez incroyable.
Intense, c'est le moins qu'on puisse
dire. Intense, et puis il y avait beaucoup de choses qui se passaient sur les réseaux sociaux, sur Facebook, entre autres. Beaucoup d'intimidation et tout ça. Là. Donc moi, c'est une histoire, en fait, qui m'a... C'est que ça va tellement loin que ça me surprend. On dirait un film, en fait.
Émile, vous?
Oui, de mon côté, une histoire qui est exclusive au livre, aussi qu'on ne retrouve pas en podcast de notre côté, c'est celle de John Lang, qui est un homme qui avait prédit sa propre mort. Donc, un habitant de Fresno, donc une ville en Californie où cet homme habitait. Et puis, ça nous amène un peu aux frontières de la paranoïa. Donc, lui croyait être harcelé par les forces policières de la région. Il a documenté, grâce à des vidéos sur YouTube, des gens qui venaient près de chez lui, qui semblaient le suivre et tout ça. Et puis, en fait, tout ce temps-là, les gens étaient un peu sceptiques par rapport à cette paranoïa. Toutefois, on a retrouvé John Lang mort dans sa propre maison en flammes à un certain moment donné. Donc, ça lui donnait un peu raison. Et par la suite, il y a plein d'hypothèses. Est-ce que vraiment, est-ce qu'il s'est donné la mort lui-même? Est-ce que c'est les gens qui l'ont assassiné? Est-ce que les autorités ont quelque chose à voir là-dedans? Donc, c'est un dossier qui est quand même encore très d'actualité. En plus, le groupe Anonymous ont fait une déclaration à cette époque-là, comme quoi ils tenteraient de trouver la réponse de l'énigme de John Lang. C'est une histoire aussi qui est passionnante et qui est toujours un peu irrésolue et empreinte de mystère.
Alors, celle-ci enfin, 12 autres histoires étranges dans Distorsion ou 13 histoires étranges de l'ère numérique, lues par Sébastien Lévesque et Émile Gauthier, qui, je vous le rappelle, amis auditeurs, ont également un podcast, une émission qu'ils présentent en balado et qui nous présente d'autres cas. Ce qui me laisse à penser qu'il pourrait y avoir d'autres livres audio à venir s'il y a autant de cas dont vous voulez nous parler.
Oui, la source est assez infinie d'histoires
Ah oui, hein?
étranges, je vous dirais.
Oui,
On ne voit pas encore la fin de notre liste de sujets, autant à discuter ou à raconter, soit sous forme de livres.
Ce qui m'amène à ma dernière question, les amis. Qu'est-ce qu'il y aura après le web? Est-ce que vous avez l'impression qu'on a trouvé puis que ça va toujours s'améliorer ou il y aura autre chose et un jour on rira du web comme on a ri de nos premiers ordinateurs?
Oui, c'est une bonne question. Ben, c'est sûr que j'ai l'impression que ce qui nous intéresse beaucoup, nous aussi, c'est le dark web, parce que c'est un peu une couche un peu cachée du web. Par contre, on a vu que le dark web a gagné en popularité vraiment dans les dernières années et que maintenant, ben, c'est assez simple d'y aller un peu pour tout le monde. Donc, parfois, moi et Seb, on se dit, ah, peut-être qu'il y a un web encore plus profond, là, un web encore plus dark quelque part qui va voir le jour, justement. Et donc, nous, on fantasme un peu à cette idée de web encore plus profond. Donc, on a l'impression que c'est peut-être vers ça, en fait, que ça s'en vient.
On va attendre, oui, parce que c'est quand même un outil fantastique, mais il y a des fois où c'est un outil qui fait grincer des dents aussi, hein? Oh là 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 là. C'est quand même je pense que vous êtes aussi très très d'accord avec ça, quoi. C'est quand même dommage que ce soit parfois utilisé de façon aussi sordide, mais ça fait des belles histoires.
Je veux comme ça, oui.
Alors, Sébastien Lévesque et Émile Gauthier, ben, je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup d'avoir enregistré toutes ces histoires qui maintenant existent sur ce livre audio disponible notamment sur la plateforme livreaudio.vusezvoix.com. Et puis, ben, je vais vous suivre personnellement maintenant parce que je dois dire que j'ai pris goût à ces histoires un peu glauques que vous nous racontez sur Distorsion. Alors, merci beaucoup à vous deux.
Mais merci à vous.
Merci beaucoup de l'invitation.
De rien. Bonne fin de journée. Salut.
Toute la pluie tombe sur moi. Et comme pour quelqu'un dont les souliers sont trop étroits. Tout va de guingois, car toute la pluie tombe sur moi de tous les toits. À chaque instant, je me demande vraiment ce qui m'arrive et ce que j'ai fait. Oh bon Dieu, ou à mes aïeux, pour qu'autant de pluie tombe soudain comme ça sur moi. Mais je me dis au fond, j'en ai reçu bien d'autres dans ma vie,
que je m'en suis toujours sorti avec
le sourire.
Eh oui.
Toute la pluie tombe sur moi. Oui, même moi, je fais comme si je ne la sentais pas. Je ne bronche pas, car j'ai le moral. Et je me dis qu'après la pluie, vient le beau temps. Et moi, j'ai tout mon temps. La pluie tombe sur moi de tous les toits. Mais je me dis qu'au fond, j'en ai reçu bien d'autres dans ma vie, que je m'en suis toujours sorti avec le sourire. Toute la pluie tombe sur moi. Oui, mais moi je fais comme si je ne la sentais pas. Je ne ronche pas car j'ai le moral. Et je me dis qu'après la pluie, j'ai le moral. Et je me dis qu'après la pluie, oui je sais bien qu'après la pluie. J'ai tout mon temps.
J'adore ça. Et le pire, c'est que c'est pas une commande que j'ai faite à Jean-Sébastien. Cette chanson-là, mes amis, je vous jure que c'est vrai, je l'ai eue dans la tête hier toute la journée. Et je me suis dit, tiens, il va falloir que je dépoussière un peu la guitare et que je m'amuse à chanter cette chanson-là. Et là, je dis à Jean-Sébastien, ça c'est pour vous mettre un petit peu au courant de la cuisine interne, comment ça se passe. J'ai dit, tiens, moi je mettrais bien une petite chanson. Là. Puis il m'a dit, ok, j'en ai une sous le coude et hop. Toute la pluie tombe sur moi, j'ai dit non, 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 toi tu as lui dans mes pensées. Nous sommes connectés, mes amis. Nous sommes à 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres de distance, masqués. On a tout entre deux, les vitres, les machins, tout ça. Et ça. Alors là, pour ça, on fait extrêmement attention. Mais au niveau du cerveau, ça, vous ne pourrez pas nous empêcher d'être complètement connectés. Bon, je vous rappelle que vous écoutez Clotilde Seille. C'est l'émission des livres plein les oreilles qui vous parvient, je l'espère, un petit peu partout dans la francophonie. On essaie de diffuser via les réseaux sociaux le fait que cette émission-là existe et qu'elle parle des livres audio en général. Là, on a parlé beaucoup d'un livre fait ici chez Vues et Voix, mais en seconde partie, je vais vous proposer un petit montage sur Pinocchio. J'ai pensé à ça en voyant la bande-annonce du film de Benigni qui vient de sortir. Benigni, j'ai jamais su le dire. Enfin bref, Pinocchio. Et puis on va parler de la mort de George Floyd et de Jean-Marc Chaput. On va rire, on aura peut-être une petite larme. C'est ça aussi, des livres plein les oreilles. Alors restez des nôtres pour la seconde partie dans 2 minutes. Coucou, la revoilou, cui-cui, la revoici. Alors, c'est l'émission des livres plein les oreilles, animée vraiment sur un ton tout à fait familial et sans prétention pour vous par Clotilde Seille de Montréal, des chic studios de Canal M qui font partie de Vues et Voix, le premier producteur au Québec de livres audio. Le livre audio, eh bien, c'est le thème de cette émission et de toutes les autres de cette émission des livres plein les oreilles. Dans cette seconde partie, on va évoquer la disparition de Jean-Marc Chaput qui laisse en héritage audio pas mal de bouquins au SQLA. Luc Fortin a été très marqué par M. Chaput, il va nous en parler. Et puis la mort de George Floyd a bouleversé le monde. On revient sur des livres audio qui font état du racisme ambiant qui existe encore malheureusement partout sur la planète. Et ici, au Canada, ben, tout n'est pas rose non plus. Noir sous surveillance, c'est un essai de Robin Ménard. Et cet essai en est le triste témoignage. Et on se souvient que Mireille Metellus, merveilleuse comédienne, noire, a lu ce livre audio et elle avait gentiment d'ailleurs à ce moment-là accepté de venir au micro de l'émission des livres pleins les oreilles pour nous en parler. Mais pour commencer, du sourire et du souvenir avec la sortie du nouveau Pinocchio avec le génial Roberto Benigni. Là, je l'ai eu parce que je l'ai lu et je me suis demandé ce qui existait sur le marché du livre audio en ce qui concerne Pinocchio. J'ai trouvé plusieurs versions. Je vais vous en offrir au moins deux trouvées sur Audible. Mais on va commencer ce petit montage-là par cette musique qui en a marqué pas mal d'entre nous. C'était un film signé Comencini sur Pinocchio, bien sûr, et cette musique incroyable de Fiorenzo Carpi.
Une fois. Chers amis, je vous entends déjà vous écrier un roi, une princesse, un animal extraordinaire, un pays lointain et merveilleux. Cette fois, vous vous tromperiez. Il était une fois un simple morceau de bois. Pas une espèce de bois précieux dont on fait les violons ou les meubles rares. Non, non. Une simple et lourde bûche. Une bûche comme celle que vous jetez l'hiver dans vos cheminées. C'est l'histoire de ce que devint cette bûche que je vais vous conter. Et le plus précisément possible. D'ailleurs, pour vous le prouver, je vais vous rapporter les propos d'un personnage sans qui rien ne serait arrivé. Geppetto. Un homme de bien, dépourvu de toute fortune, qui chaque matin trouvait un expédient pour vivre jusqu'au soir et qui, comme beaucoup d'entre nous, passait son temps à rêver de richesse et de bonheur à chaque instant.
Dès qu'Arlequin et Polichinelle l'aperçurent, ils lui firent fête. Tous trois dansaient sur la scène lorsque le montreur de marionnettes surgit. Il était très en colère et pour punir Pinocchio d'avoir semé le désordre dans son spectacle, il voulut le jeter au feu comme un vulgaire bout de bois. Pauvre Pantin, comme il regrettait d'avoir désobéi à Geppetto. Il pleurait avec des larmes si vraies que le montreur de marionnettes, tout attendri, lui rendit sa liberté. Il lui donna même 5 pièces d'or. Sur le chemin du retour, Pinocchio rencontra un chat et un renard. Ils engagèrent la conversation et le pantin commit l'imprudence de leur montrer ses belles pièces d'or. Les deux compères redoublèrent d'aimables sourires.
« Si tu venais avec nous, tu pourrais en avoir 2000 », lui dit le renard malin.
Pinocchio se laissa tenter et les suivit sans méfiance, car il ne savait pas que c'était de dangereux bandits recherchés dans tout le pays. Ils marchèrent longtemps, mais soudain, à la nuit tombée, les deux voyous assommèrent le pantin par derrière. Ils commençaient à le fouiller pour le voler, lorsqu'apparut dans une étrange lueur bleutée une éblouissante jeune femme.
J'aime cette musique-là. Chaque fois, ça me transporte littéralement. Musique signée Fiorenzo Carpi. Et ça avait été composé pour le film Pinocchio, réalisé par Comencini avec Nino Manfredi. C'était dans les années 60, si mes souvenirs sont bons. Fin des années 60, me semble-t-il. J'ai oublié de le noter sur ma recherche. C'est pas bien ça, c'est pas bien du tout. Et puis, ben, les extraits. Ça nous a permis de réentendre la voix de Jean-Pierre Cassel. Il y a aussi Jean Topard, tous les deux disparus maintenant, qui fait partie de cet enregistrement qui a maintenant quelques années et auquel a participé également Anouk Grimbert. On retrouve ça, le Pinocchio de Carlo Collodi sur Audible, et c'est également sur Audible qu'on retrouve la série Marlène Jobert raconte, dont je vous ai déjà parlé à cette émission, et c'est la voix de Marlène Jobert que nous entendions nous raconter cet épisode célèbre du petit Pinocchio. Bon, avant de réentendre une voix qui a marqué pour longtemps le Québec et avant de retrouver l'ami Luc Fortin, je voudrais que nous écoutions une chanson. Elle est signée Michel Bernard. Cette chanson porte le même nom, le même titre qu'une des conférences que Jean-Marc Chaput a présenté dans le pays pendant de nombreuses années, maintenant ou jamais.
Arrête de dormir, on peut en mourir. Arrête de ronfler, je ne sais pas siffler. Arrête de dire, ça presse pas, qui vivra verra, c'est maintenant ou jamais qu'il faut s'aimer. Visage durci, geste tout petit, désir tenu en laisse comme une meute de caresses. Et derrière les dents, les mots importants, si simples et utiles, quand s'ouvriront-ils? À se croire éternel, on fâche le soleil qui dépose en chemin des taches sur nos mains. Avant qu'elles nous couchent, brûlons nos cartouches, saccageons nos cœurs pour tromper la peur. Thank you. arrête de dormir, on peut en mourir. Arrête de ronfler, je ne sais pas siffler. Arrête de dire, ça presse pas, qui vivra verra. C'est maintenant ou jamais qu'il faut s'aimer.
C'est vrai que j'ai du front en sac à la fête. J'ai des salles de réservées pour maintenant ou jamais en novembre 2010. Je vais avoir 80. Hein? Je vais avoir 80! Tout ça fantastique! Incroyable! Tu sais, tu sais tout ça? Vous êtes tous à maintenant ou jamais. Puis, quand j'ai commencé, mettons, ça allait mieux. Depuis ce temps-là, ça va moins bien, tu sais. Je sais pas, avez-vous eu la visite de la Ré, vous autres, un peu? La Ré, tu passais chez vous? La récession? Hein? La Ré, ben, il a passé. Hein? On a l'impression que la Ré, il passe partout, tu sais. C'est incroyable, les chiffres, à part de ça, tu sais. On a perdu 40 milliards, il paraît, dans la caisse de 40 milliards. Je sais pas si vous réalisez, c'est plus des millions, ça, on perd pas des milliards. Un milliard, c'est 1 000 millions. Puis là, on parle de trillions, je dis billions. C'est 1 000 milliards de 1 000 millions. Tabarnak, je joue au Monopoly.
Ah, Jean-Marc Chaput s'est éteint il y a un petit peu plus de 2 semaines maintenant, à l'âge de 89 ans. Le crabe est revenu hanter ce corps qu'il avait pourtant lâché depuis une bonne dizaine d'années. J'ai demandé à un ami, à un animateur que vous connaissez bien et que vous aimez beaucoup et qui considérait, je pense, Monsieur Chaput un peu comme son idole. Je lui ai demandé de venir nous en dire quelques mots. Luc Fortin, bonjour.
Salut Clotilde.
Luc, j'ai vu le post que vous aviez mis. Ils sont rares, hein, sur Facebook, mais la mort de Jean-Marc Chaput vous a touché énormément.
Ça me surprend de savoir qu'ils sont rares, parce que dès que j'ai entendu parler du décès, il y a tellement de gens qui ont été influencés par lui que je me disais, bon, je vais me joindre à la chorale.
Mm-hmm. Non, ce sont vos posts à vous qui sont rares. Effectivement.
Ah oui, c'est très rare. Oui.
Qu'est-ce qui... Vous avez été, très, très influencé par Jean-Marc Chaput. Expliquez-nous à quel niveau, qu'est-ce qui vous a le plus touché, accroché à cet homme-là?
Mais en fait, j'ai été très influencé dans une sphère de ma vie. Comme la plupart, je pense, on entend que ce soit une conférence auquel j'ai assisté, que ce soit des disques ou des bouts de chapitres, mm-hmm. puis là on se dit et que ça a du bon sens ce qu'il dit. Mais bon, par contre, j'ai longtemps voulu travailler en communication et pour un paquet de circonstances, ça ne s'était jamais fait. La cécité, la technologie qui était mal adaptée, le disque vinyle, bon. Et à un moment donné, j'étais entre deux emplois. J'arrivais à la quarantaine, c'était une question de mois. Et depuis 2 ou 3 ans, je formais des bénévoles qui allaient dans des écoles de radio pour faire de la lecture pour les personnes handicapées visuelles. Et souvent, les gens m'expliquaient, me parlaient de leur expérience, puis ça m'achalait vraiment. Je me disais, et qu'ils sont chanceux. Ils sont chanceux de faire ce qu'ils aiment. Ils sont chanceux de pouvoir espérer peut-être aller en télé, peut-être aller en radio. Mais surtout, on le sait dans ce métier-là, c'est que normalement, tu parles de ce que t'aimes, tu rencontres des gens, tu... Et là, cet emploi-là s'est terminé abruptement. Et j'étais vraiment en remise en question. Et durant le temps des fêtes 2003-2004, Je dormais pas comme ça m'arrive souvent. Alors j'avais ma petite radio pour pas trop réveiller les autres. J'avais mes petites oreillettes et il y avait beaucoup beaucoup de bruit de fond parce que j'étais dans le bois retiré pour le temps des fêtes dans un chalet. Et Chaput répondait lors d'une tribune téléphonique aux personnes qui prenaient le temps d'appeler. Et je l'entendais parler du trafic qu'un auditeur détestait subir en prenant le pont. Puis Chaput lui disait, mais pourquoi tu ne changes pas d'emploi ou pourquoi tu ne déménages pas? Au lieu de subir, assume et prends les décisions qui s'imposent. Puis à un moment donné, à quelqu'un d'autre, il lui a dit, bon, le fameux sacrifice, sacrifice, fais donc ce que tu veux une fois pour toutes. Oui. Et ça, ça m'a parlé beaucoup. Ça a été l'élan, le coup de pied là, qui a généré mon inscription dans une école. Et ben, ça me permet lundi prochain d'animer Accès Libre sur Canal M.
C'est ça, exactement. Ben, oui. Est-ce que vous avez eu l'occasion de lui dire?
Oui, oui. D'ailleurs, quelqu'un qui l'a vu dans une conférence me dit qu'il a cité mon exemple dans cette conférence-là. Donc, non seulement je lui ai dit, mais il a utilisé l'histoire.
Luc Fortin, merci beaucoup d'avoir accepté de nous raconter cette belle aventure. Il me semble vous imaginer dans le bois et tout d'un coup prendre ce coup au cœur et dire « mais oui, vas-y, toi aussi, aveugle ou pas, vas-y, ose, ouais. Fonce, quoi ». Et c'est grâce à celui que vous appelez très amicalement Chaput, j'adore ça.
Ouais, ben, quelqu'un dirait « c'est un coup du destin ». Quand t'es dans le bois, puis tu dors la nuit, puis que tout à coup t'entends ça, tu dis « c'est peut-être pas un hasard. »
Alors, pour entendre, hein, bien sûr, Luc Fortin sur les ondes de Canal M via tous les moyens disponibles, eh bien, c'est le lundi que ça se passe. Mais c'est, en fait, c'est tout le temps sur notre site Internet ou par balado, ou en tout cas, ou par la télévision. Ne manquez pas, Accès Libre, animé par l'ami Luc Fortin, que je remercie, Sacrifice, encore une fois, d'avoir accepté cette invitation. Salut.
Ça fait plaisir.
Salut, Luc.
Je mettrai mon cœur dans du papier d'argent. Mon numéro d'appel aux abonnés absents. Mes chansons d'amour resteront là dans mon piano. J'aurais jeté la clé du piano dans l'eau. J'irai voir les rois de la brocante. Vendez mon cœur 3,50 francs. Tu savais si bien l'écouter que ma vie arrêté quand tu m'as quitté. Je voulais te dire que je t'attends, et tant pis si je perds mon temps. Je t'attends pourtant, comme quelqu'un qui n'a plus personne, s'endort près de son téléphone et sourit quand on le réveille, mais ce n'était que le soleil.
Ton lieu de décollage. Le lieu où tu vas m'écouter sera un lieu de quiétude. Il faut que cet endroit soit rempli de bonnes ondes. Il faut trouver un fauteuil confortable où aucun muscle ne sera froissé, aucune articulation tordue où il n'y aura plus dans ton corps la moindre tension. Un hamac serait l'idéal, ou un divan rembourré dans lequel tu t'enfoncerais complètement, ou le moelleux d'un gazon fraîchement coupé, ou un lit tiède. Tu as froid, tu as chaud? Règle la température au mieux et ne reprends l'écoute que lorsque tu te sentiras bien. Décroche le téléphone et débranche la sonnette de la porte. Tu n'as même pas besoin de musique. Tu vas voir. C'est moi qui produirai de la musique dans ta tête. Je suis assez puissant pour occuper tous tes sens. Comme ça, juste par le pouvoir grandiose des mots.
C'est ça, le livre audio. Et c'était lu cet extrait par Michel Jonas, dont on connaît la suavité de la voix chantée, mais que dire de sa voix parlée. C'était un extrait du livre du voyage de Bernard Werber. C'est une nouveauté que vous retrouvez notamment chez Audible. Il y a eu cette mort en direct que nous avons vécue il y a quelques semaines de George Floyd et qui a fait en sorte que beaucoup de livres sur papier ou des livres audio ont été empruntés sur le racisme ou en tout cas tout ce qui tourne autour de la vie des Noirs. Vous savez qu'au Canada, ce n'est pas le plus meilleur pays au monde et il y a un essai de Robin Ménard qui existe, lu par Mireille Metellus, pour Vues et Voix, que vous retrouvez sur notre catalogue. Ça s'appelle « Noir sous surveillance ». Je vous en propose un extrait.
L'esclavage s'est pratiqué au Canada pendant plus de deux siècles. Néanmoins, la plupart des écoles de ce pays n'enseignent ni les réalités de l'esclavage canadien, ni les multiples brimades infligées aux populations noires du Canada. Brillant par son absence dans l'enseignement, l'esclavage qui s'est pratiqué au Canada se fait aussi très discret dans la recherche. Le fait que la plupart des universités canadiennes n'ont pas de département d'études noires s'avère aussi particulièrement révélateur. Signalons l'exception notable d'un programme de mineurs en études de la diaspora noire et africaine ouvert en 2016 à l'Université d'Alousie. Trop peu d'historiens ont porté ou portent aujourd'hui un regard critique sur l'esclavage qui s'est pratiqué au Canada et rares sont en définitive les Canadiens qui connaissent cette partie de leur histoire. Quand il arrive que l'esclavage canadien soit mentionné, ce qui est rare, il est généralement présenté comme un phénomène de peu de conséquences et de courte durée. Or, l'esclavage n'est jamais de peu de conséquences. La domination et l'asservissement d'un groupe d'êtres humains par un autre supposent forcément des menaces ou des actes de brutalité qui s'expriment de multiples façons. La capture des Noirs et les moyens utilisés pour assujettir leur corps constituent une violence fondamentale sur laquelle s'appuie tout le système esclavagiste. Le maintien d'un être humain en servitude passe nécessairement par les privations sociales et matérielles, la surveillance et les châtiments corporels. Cette violence se traduit souvent de manière particulièrement répugnante. Poétesse, réalisatrice et historienne néo-écossaise d'ascendance africaine, Sylvia Hamilton rapporte ainsi l'histoire de Lydia Jackson, une jeune femme noire libre ayant vécu en Nouvelle-Écosse au XVIIIe siècle. Capturée et réduite en esclavage, elle est vendue à un maître et son épouse qui la frappe régulièrement au visage et à la tête avec de grandes pinces, des cordes ou des bâtons. Elle sera même piétinée alors qu'elle est allongée par terre, enceinte de 9 mois. Cette violence est cautionnée par l'État. Le tribunal rejette sa plainte pour maltraitance.
Noir sous surveillance, un essai de Robin Menard, un essai extraordinairement fouillé, documenté sur la vie des populations noires au Canada depuis l'esclavage jusqu'à nos jours. Et c'était lu par la merveilleuse Mireille Metellus, que j'embrasse très fort. Un petit mot au sujet de Jean-Marc Chaput, parce que j'ai omis de le faire un petit peu plus tôt, et c'est quand même dommage. Il existe des livres audio accessibles à toutes et à tous, du moins aux personnes qui vivent avec une déficience visuelle. C'est disponible au Service québécois du livre adapté, au SQLA. Il y en a plusieurs. Il y a « À la recherche de l'humain », une recherche du bonheur et de nos possibilités. Il y a également « Une vie d'amour et d'épreuves », parce que Dieu sait s'il n'a pas manqué d'amour, il en a donné beaucoup, mais les épreuves, il en a subi aussi beaucoup, Jean-Marc Chaput. Et il y a également disponible au SQLA le livre qui s'appelle « Politiquement incorrect ». Alors, ils sont tous disponibles en audio, bien sûr. Merci aux invités Sébastien Lévesque, Émile Gauthier et Luc Fortin. Et merci aux voix de Jean-Marc Chaput, Michel Jonas, Jean-Pierre Cassel, Marlène Jobert et Mireille Metellus que nous avons entendues à cette émission. Merci à Jean-Sébastien La Liberté en régie. Merci à vous d'avoir été là. C'était Clotilde Seille qui vous souhaite une bonne semaine et qui vous dit à la semaine prochaine. Et mettez-vous des livres plein les oreilles. Salut!